18h30, lundi 13 janvier, c'est l'heure de la relève, votre quinzomadaire radiophonique diffusée par Radio Campus Paris en FM et sur le web, et comme tous les 15 jours en 2025, et oui car nous sommes en 2025, bonne année à vous, comme en 2024, la relève est le rendez-vous des nouveaux talents et des premières fois. Ce soir il sera question de médailles d'or et de rédemption, mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, qu'est-ce que vous feriez si un soir, en rentrant chez vous, votre amant ou votre maîtresse ne vous répondait pas ? C'est ce qui arrive à Marie, une trentenaire new-yorkaise qui vit dans l'East Village des années 80-90. Elle rentre un soir et Primo, son petit ami, ne lui répond pas. Primo, j'adore cette description qu'elle en fait, il était toujours là. Et même s'il ne brillait pas, il maîtrisait l'art délicat de ne pas agacer. L'art délicat de ne pas agacer, c'est quasiment l'idéal pour une vie de couple réussie. Enfin... Pour vous donner une idée de l'amour entre ces deux-là, Marie dit aussi « Primo m'attirait essentiellement du fait du curieux mépris que j'avais pour lui. » On est vraiment chez Roméo et Juliette. Enfin bon, Primo, s'il ne répond pas, c'est parce qu'il est mort en regardant la télévision. Donc Marie se retrouve avec un cadavre et le chien de Primo sur les bras. Elle va devoir accomplir bien des choses qu'elle n'avait pas prévues ce soir-là et dans les semaines qui ont suivi, à commencer par retrouver la famille du fameux Primo pour organiser les funérailles. Et cette occasion, elle va en apprendre un peu plus sur cet homme. Elle va se lancer dans une sorte d'enquête pour retrouver une des ex de Primo, on n'en dira pas beaucoup plus. C'est un roman généreux, il est question de la scène underground de l'époque, de l'art contemporain, de la musique, d'un groupe de rock féministe, de rencontres avec un ancien voisin à moitié protecteur, à moitié inquiétant, des projets littéraires de Marie qui veut écrire un livre de nouvelles sur le travail qu'on adorerait lire mais qu'elle peine à finir, de rencontres loufoques ou dangereuses, de trahisons, de personnages qui ne sont jamais ce qu'ils semblent vraiment être, d'abord au premier regard. Ce n'est peut-être pas le récit le plus original, mais avec un point de départ aussi tragique, il y a une énergie et surtout quelque chose de joyeux dans le récit des aventures de Marie dans le New York d'alors. Et puis c'est un livre qui se termine par une très jolie réunion de trois femmes, une scène d'une sororité réjouissante et qui a été écrite par un homme. Alors ça s'appelle Dog Run, c'est d'Arthur Nersessian, c'est aux éditions La Croisée et c'est traduit par Charles Bonneau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette virgule. Bonsoir Yvan Butel. Vous êtes auteur de... Vous n'avez pas écrit un roman qui se passe à New York. Hein. Vous êtes auteur de Deux silences et d'or. C'est un livre qui est paru aux éditions Globe. Comme ce n'est pas écrit dessus, ou alors c'est moi qui ne vois pas clair avec l'âge, vous pouvez me dire s'il s'agit d'un roman, d'un portrait, d'un document, de non-fiction. C'est quel genre? Il faut nous aider là.
Oui, et il y a même un mot que vous n'avez pas dit, c'est récit. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une histoire vraie, mais en même temps, on est dans de la littérature, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de « je fais le portrait », ça peut aussi être un portrait, je fais le portrait de quelqu'un qui a existé et qui continue d'exister, quelqu'un qui est vivant, et on pourra revenir là-dessus, qu'est-ce que c'est que de raconter l'histoire de quelqu'un qui est vivant, et même encore plus que ça, qui est un ami, et en même temps, je l'invente avec des mots, et parfois en inventant des moments de sa vie où je n'étais pas là, mais bon. Pour l'immense majorité du texte, disons 90%, tout est... on pourrait faire du fast-checking et tout est parfaitement exact.
Le narrateur, c'est vous ou c'est pas vous alors ?
Le narrateur, c'est pareil. Dans les grandes proportions, c'est moi. C'est à moi que j'invente aussi un peu parfois, par moment. Voilà.
Alors dans ce récit, vous donnez tous les éléments dès le début. Chas, c'est son nom, c'est un nageur paralympique, il est multimédaillé, mais en 2000, il rentre des JO paralympiques, donc des Jeux paralympiques plutôt de ciné dans son pays, l'Espagne. Et là, un article de presse, révèle qu'il a un passé de militant politique, qu'il a pris des armes, qu'il est mêlé à un assassinat et qu'il a fait de la prison. Vous donnez ça dès le début. Alors qu'est-ce qui reste à raconter quand on a tout donné au début? C'est très étrange comme manière de faire.
Oui, c'est marrant, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas le côté suspense où les choses se dévoilent, les choses sont données d'entrée, et puis on se prend plein d'informations, et on sait effectivement, et moi j'ai su tout de suite, en découvrant un article journal, j'ai su ce qu'il avait traversé, j'ai su la prison, j'ai su la grève de la faim, j'ai su les actions terroristes, j'ai su la rédemption, les médailles d'or, etc. Donc il y a une grande liste d'étapes très très spectaculaires, et en même temps, c'est un petit peu le point de vue du récit, c'est-à-dire que je me disais, on sait tout, mais on ne comprend rien.
Oui, parce qu'il y a un truc notamment... Allez-y, pardon.
On ne comprend rien, c'est-à-dire qu'il reste ou bien à faire des choses, ou bien à faire des liens entre les différentes étapes de sa vie, ou au contraire, c'est trop morcelé, il faut recoller les morceaux. Enfin, il y a un espèce de truc où à la fois on connaît les faits, mais on n'en a pas encore bien pris la mesure. Et pour ça, il faut du temps. Il faut pouvoir arpenter son histoire, l'explorer et puis la comprendre tout simplement. Parce que ce n'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les a comprises.
Je me suis demandé à un moment si ce que vous intéressait fondamentalement, ce n'était pas la relation finalement entre les deux personnages. Et avec cette question, pour vous qui êtes par ailleurs documentariste, ai-je lu et scénariste, la question de l'amitié, est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un sur qui on enquête ?
Bah, c'était exactement un des projets, une des quatrièmes de couverture, c'est-à-dire qu'à un moment, on a pensé résumer l'histoire comme ça, c'est-à-dire presque écrire sur un ami formidable, ou enfin, il y a une histoire comme ça. C'est la relation duelle entre le narrateur, on va parler du narrateur, disons, on ne va pas parler de moi exactement, mais la narration entre le narrateur et cette personne, ou ce personnage, c'est au cœur du texte. Et aussi important que les faits, que ce qu'il a traversé, il y a la façon dont le narrateur s'en empare et tente de les comprendre, et puis l'amitié qui se noue entre eux. Et c'est très compliqué de raconter l'histoire de quelqu'un dont on devient un ami. Et de...
Pourquoi ? Est-ce que ça, vous pouvez expliquer ? C'est quoi ? C'est le fait d'aller fouiller ? C'est que normalement, un ami, on lui demande, et puis s'il dit « va pas voir », on n'y va pas.
Un ami, on ne raconte pas sa vie dans un livre. Normalement, un ami, on lui fout la paix. Normalement, un ami, on partage des choses avec lui. Normalement, un ami, quand il vous confie quelque chose, c'est un secret. Ou alors, il vous dit « raconte-le », je ne sais pas quoi. Il y a un statut qui est complètement différent. Et là, j'étais vraiment à la frontière, c'est hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois un ami qui me confie des choses ou qui se tait. Et puis moi, ce qui se tait, je l'invente. Et puis quand il me raconte des choses, je les répète et je les écris le lendemain dans un carnet. Et puis il m'invite à dormir chez lui. Et puis la journée, le lendemain, je vais dans les archives pour savoir qu'est-ce qu'il a fait il y a 20 ans. Enfin, on est toujours comme ça sur borderline, sur un truc délicat. Et là où c'est assez beau, enfin là où je suis content, c'est que ça n'a pas gâché notre amitié, ce travail-là. Et donc, ça aurait pu être, il y a plein de moments où c'est menacé, ça. C'est-à-dire de dire, enquêter sur quelqu'un qui a fait le mal, entre guillemets, ou qui s'est lancé dans la lutte armée, révéler des choses, ça peut compromettre l'amitié. Parce que lui, voilà, mais...
Il y a un moment où vous êtes inquiet sur votre amitié, parce que vous révélez des choses, vous allez sur un terrain qui ne lui plaisent pas forcément, qui est notamment les rapports au sein de sa famille.
Exactement, c'était le point délicat, c'est la question de la place de sa famille, et de pas seulement... En gros, c'est comme s'il m'avait dit « Ok, pour raconter mon histoire, mais par contre, va pas chercher du côté de l'enfance, du frère, de la sœur, etc. » Parce que ça, c'est autre chose. Et là, tu rentres dans un truc un peu délicat. Mais moi, il fallait que j'entre là-dedans, parce que moi, c'était la clé du récit, quoi. C'est-à-dire que les choses, c'était pas seulement jouer dans des manifestations de rue, dans des prisons, dans de la lutte, mais les choses, c'était aussi jouer au niveau familial. Et on a tenu ça ensemble.
Est-ce qu'au début, quand vous le rencontrez, d'abord, dans quel contexte vous le rencontrez, ce chat ? Parce que j'imagine qu'à l'époque, vous n'aviez pas l'idée d'écrire un livre.
Non, pas du tout.
La question que je voulais savoir, c'est quel pacte vous passez avec lui ? Vous le rencontrez comme documentariste ou... Vous lui dites quoi quand vous le revoyez la première fois ?
Alors d'abord, à l'époque, je ne parle pas un mot d'espagnol. Donc lui, c'est un nageur espagnol. Donc je rencontre, j'ai quelques lignes, un entrefilet dans le journal L'Équipe où il nage au jeu. Et effectivement, son histoire commence à faire un peu de bruit. Qui c'est ce mec-là ? C'est quoi son passé ? Son passé sort. Donc moi, je suis attiré par ça. Je demande à un copain de m'aider à écrire une lettre, à traduire une lettre pour moi. Je lui écris une lettre et je lui dis « j'ai envie de venir te voir ». Il me répond, je me fais traduire sa réponse et je débarque là-bas toujours avec cet ami un peu interprète. Au début, je ne suis pas du tout en mesure de comprendre ce qu'il me dit et je ne suis pas du tout en mesure d'exprimer ce que j'ai envie de lui dire. Mais petit à petit, je vais apprendre l'espagnol et petit à petit, on va se lier d'amitié. Et effectivement, j'y vais un petit peu en tant que documentariste. C'est-à-dire que parfois, j'emmène une caméra, parfois, je fais des photos, parfois, j'enregistre du son. Ce n'est pas clair dans ma tête, mais il y a l'idée d'enquêter sur cette histoire et de passer du temps avec lui. Et donc, le secret va être de passer du temps. Il m'invite à revenir et je reste plus ou moins longtemps. Et comme ça, les choses et l'idée du livre est venue beaucoup plus tard.
Ouais, donc vous n'y allez pas, vous sent passer genre pour un gars qu'il rencontre par hasard. Il sait qui vous êtes quand même.
Il sait qui je suis.
Non, parce qu'on pourrait imaginer que vous manipulez.
Non, non, pas du tout. C'est très, très clair. J'y vais en disant j'ai envie de faire quelque chose. En gros, j'ai envie de raconter ta vie.
À l'inverse, il y a un moment où vous écrivez « Chat fait son apparition, il s'est douché, il s'est calmé, il laisse son entraîneur finir de compiler les données, il nous observe sans un mot, et moi cette partie-là qui m'intéresse, on dirait qu'il prend un certain plaisir à être le témoin de sa propre histoire, à regarder en silo, les autres commenter, débattre du catcha, c'est pas facile à dire, je vous remercie pas, débattre du catcha ». Il n'y a pas un moment où vous demandez s'il ne vous manipule pas aussi ?
Mais sans arrêt. Autant moi, je me sers de lui, mais lui se sert de moi. Lui, il a besoin de quelqu'un qui transmette son histoire et qui ne soit pas espagnol. C'est-à-dire, il a besoin de quelqu'un qui est étranger, qui ne connaît rien au franquisme, qui ne connaît rien à la guerre civile en Espagne, qui n'est pas avec ces histoires de préjugés d'a priori sur l'ETA, qu'est-ce que c'est, de mettre des bombes et tout. Moi, je suis le petit Français qui débarque là-bas. Et donc, d'une certaine façon, il peut m'utiliser. Il peut utiliser ma naïveté, ma méconnaissance des faits. Et on avance comme ça ensemble. C'est-à-dire que chacun va jouer avec l'autre et on en sourit parce qu'on le sait et personne n'est dupe.
Ça dure combien de temps, en fait, votre histoire? Parce que là, dans le livre, quand on le lit... On ne se rend pas compte, finalement, c'est une histoire qui est dans la durée, qui s'inscrit au moins sur 10 ans.
Ah ouais, c'est 10 ans, c'est même plus.
C'est 10 ans de votre vie, quoi.
C'est même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je le rencontre fin 2000-2001. C'est 25 ans de ma vie, sauf que pendant 10 ans, il y a un vrai travail de suivi, d'enquête, etc. Et puis, il y a une longue absence, il y a un moment où on se lasse et je n'y vais plus, etc. Aujourd'hui, il y a ce texte, et ce texte est d'une certaine façon une nouvelle étape dans notre relation, etc. Il y aura peut-être un jour un film, mais c'est une histoire importante, c'est une part importante de ma vie, et c'est comme l'histoire de ma vie, quoi.
Lui, il ne parle pas français, donc vous savez si le livre va être traduit en espagnol ?
Non, je ne sais pas encore si le livre va être traduit.
Je regarde votre éditrice en régie, elle ne sait pas non plus.
Non, ça va être un moment, le jour où le livre serait traduit, ça serait un moment important aussi pour lui et pour moi, parce que là, il serait rattrapé par plein de choses, et puis tout simplement parce que les gens qui le connaissent pourront lire. Il n'a pas pu lire le livre, mais je lui ai fait une traduction avec mon niveau d'espagnol. Je lui ai fait une traduction, c'était important de lui passer le texte, donc avec plein de fautes, etc., une traduction approximative, mais il a connaissance du texte.
Est-ce que ce qui vous intéressait aussi, c'était de raconter l'histoire de l'Espagne post-franquiste, cette histoire qu'on nous a parfois un peu racontée, alors les gens qui nous écoutent, peut-être pas, parce qu'ils ont autour de 20 ans, et qu'on commence à parler de quelque chose qui s'est passé à la fin des années 70, au début des années 80. C'est-à-dire cette histoire, ce mythe à la fin du franquisme, il y a une espèce de grande réconciliation, et on passe à autre chose, on passe à la démocratie, le roi d'Espagne assure la transition, et tout va bien. Est-ce que oui. C'est cette histoire-là que vous avez... Parce que moi, j'ai des choses que j'ai apprises en vous lisant.
Oui, bien sûr.
Apprises, pardon.
Ça, c'est un élément du... C'est comme le décor, c'est comme planter le décor de son histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans un premier temps, dans une première version du texte, j'allais sans doute un petit peu vite, et puis là, c'est mon éditrice... Valentine Gay qui m'a dit « Prends le temps, raconte cette histoire comme tu la raconterais à un enfant qui ne connaît pas, raconte ce que ça a pu être la dictature, les souffrances, les tortures, les gens disparus, les gens jetés dans les fosses communes, et puis aujourd'hui cette mémoire qui se réveille, etc. » Donc on a fait ce travail de un petit peu raconter le contexte de cette histoire. Il y a la fin du franquisme, mais on peut remonter encore avant, il y a la guerre civile d'Espagne qui est encore plus lointaine. Pour nous c'est comme de la préhistoire, c'est 1936-1939. Et tout ça, en Espagne, aujourd'hui, c'est à vif. Ils n'en sortent pas. Comme on dit, une expression, le passé ne passe pas, quoi. Ils n'arrêtent pas de revenir là-dessus, ils n'arrêtent pas de se chamailler là-dessus. Là, en ce moment, cette année, c'est intéressant, le livre sort maintenant, on fête les 5... Enfin, on fête pas.
On célèbre
les 50 ans de la mort de Franco, leur dictateur. Et même ça, ils ne sont pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que droite, gauche, etc., est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas faire, réveiller les blessures du passé, tout ça. Enfin, ils n'en sortent pas, quoi.
Non, mais ce qui se passe à la fin, à la mort de Franco et au moment de la transition, c'est très particulier. C'est qu'en gros, on ne dit plus rien. D'un côté, on n'attaque pas, mais d'un autre côté... Il y a quelque chose de l'ordre de la névrose, du refoulé. Quoi. Il y a quelque chose qui est refoulé. Normalement, plus personne ne doit parler de rien. J'en profite pour ça, parce que le film est formidable. Il y a le film d'Almodovar qu'on peut peut-être voir qui s'appelle Madres Paralelas. Moi, je ne parle pas espagnol du tout, avec Penélope Cruz et Javier Bardem, qui raconte ça aussi, avec à la fin la découverte d'un charnier. C'est que tous ces gens-là, on leur a dit bon, maintenant, vous êtes en démocratie, vous discutez plus de rien, c'est fini.
Voilà, le film, il est effectivement très, très beau. Ce film-là d'Almodovar, il commence par ça, par les fosses communes, et puis il se termine par ça, et puis on a les os. On a creusé la terre et puis il y a cette, moi je file cette métaphore là, c'est-à-dire creuser, qu'est-ce que c'est que de creuser une histoire, que de déterrer des bouts de traces du passé mais sans les abîmer, parce que quand on creuse, le travail des archéologues c'est de creuser à la petite cuillère et puis c'est de pas abîmer les choses, et moi j'aime bien m'imaginer comme ça. Effectivement, ce moment il est très particulier, ce moment de la fin de la dictature, de ce qu'on appelle la transition en Espagne. Il y a un vrai pacte du silence. Un pacte du silence, ça veut dire écoutez, on met tout ça de côté pour avancer, pour fonder une démocratie. Le problème en faisant ça, c'est qu'on fait le silence sur les crimes qui ont eu lieu et les tortionnaires.
C'est comme un secret de famille à l'échelle d'un pays, un peu.
Exactement, on est vraiment comme ça. Ça fait penser à ça, et c'est pour ça que l'histoire de Cha, elle se joue autant dans les médias, dans la rue, mais dans la famille aussi. Parce qu'il y a ce silence, il déteint et il imprègne, et il y a le tabou. À la maison, on ne parle pas. On ne parle pas au niveau dans les médias, mais on ne parle pas non plus à la maison.
Et ce que vous montrez très bien, c'est que finalement, avec cette histoire, il y a un vrai paradoxe, c'est qu'on demanderait, c'est qu'une partie de la société espagnole demande à Cha de parler dans un pays où finalement personne ne parle. Pourquoi lui parlerait et pas les autres ?
Bah là, c'est compliqué. C'est ce qu'on demande aux gens. En gros, c'est une sorte de... C'est pas un chantage, mais c'est un deal. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit, tu t'en es bien sorti. Tu as été dans la lutte armée. Maintenant, tu as été libéré. Tu es sorti de prison. Maintenant, ce que tu nous dois, c'est une parole. Maintenant, tu dois raconter ce que tu as traversé.
Pourquoi lui parlerait et pas les autres ?
Mais parce que lui, il était du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on n'exige pas. C'est compliqué. Lui, il est classé comme terroriste, quoi. Le terroriste, pour être réinséré dans la société, il y a un moment où il doit exprimer du repentir. Il y a un moment où il doit demander pardon aux victimes, pardon aux proches des victimes. Elle est très, très forte, cette demande. En Espagne, c'est un pays qui a beaucoup souffert du terrorisme au sud de l'ETA. C'est une vraie force publique, les victimes. Et ils ont le droit, et c'est tout à fait légitime. Et donc, il y a un moment où on attend une parole. Et c'est pas si simple que ça. C'est très compliqué. C'est presque incompréhensible qu'ils n'arrivent pas à mettre les mots. Parce que les mots sont assez simples, finalement. C'est « je ne referai pas ce que j'ai fait, je le regrette ». J'ai causé du mal. Ces mots-là sont très très durs à dire parce que tout est pris dans un contexte très compliqué.
Alors justement, vous le dites, et moi je ne voulais pas faire cette émission sans citer le nom de Raf P, qui est la personne qui a été abattue par un commando d'extrême gauche. On ne comprend pas très bien pourquoi en lisant votre livre. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils eux-mêmes le comprennent très bien.
Aujourd'hui, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que sur le moment, très concrètement, il était, président de la Chambre de commerce à Séville. Et puis, à un moment, vous faites partie d'une liste d'objectifs de terroristes. Et puis, qui viennent, vous êtes le prochain sur la liste. Et puis, un jour, il y a des gens qui viennent vous abattre. C'est aussi cruel et aussi sanguinaire que ça. Donc, eux-mêmes, effectivement, ils avaient des œillères. Ces gens, le groupe de Tcha, ces gens-là, maoïstes, anarchistes, dans les années 70-80, alors que la dictature se terminait, ils étaient complètement dans un truc, le sang les aveuglait, quoi. Il y avait un truc comme ça. Eux-mêmes étaient souvent tués, eux-mêmes avaient des affrontements très violents, mais voilà.
Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il était du mauvais côté, mais il y a des gens qui sont peut-être du bon côté, mais qu'on fait pire. Il y a ce personnage dont j'ai oublié le nom, Billy, et j'ai pas envie qu'on le cite, le chef de la police.
Mais si, il faut le citer parce que son nom est rigolo, c'est Billy the Kid. Billy the Kid, c'est comme
non, mais
le personnage.
Pas donné son vrai nom. Parce que c'est le genre de personnage qu'il faut mieux oublier, qui a été quand même une sorte de tortionnaire officiel.
Non, mais il ne faut pas l'oublier, parce que ces gens-là,
citez son nom si vous voulez. Moi,
son vrai nom, peu importe, parce qu'en plus, il n'est pas connu, on s'en fout, mais c'est Billy El Niño, donc Billy l'enfant, donc Billy le kid. On connaît ce nom américain, mais lui, c'est Billy El Niño en espagnol. C'était un petit bonhomme qui était à un poste important de la police secrète, de la police franquiste, mais qui en plus...
Mais qui reste après.
Et qui reste dans les années floues du passage à la démocratie, et qui était un tortionnaire. Et énormément de gens ont porté des plaintes contre lui pour mauvais traitements, etc. Ces plaintes, elles n'ont jamais abouti parce qu'il s'est réfugié en Argentine, et puis après, et finalement, il est mort du Covid. Et là où il a bénéficié d'un truc, c'est qu'il a bénéficié de... Il a bénéficié de cette amnistie, de cette loi du silence. C'est-à-dire qu'on a fait ce moment un peu étrange où, à la fin du franquisme, on fait cette loi d'amnistie pour tout le monde, et bien même les tortionnaires, ils en bénéficient. Et donc, il n'a jamais été jugé.
Il y a un moment, vous parlez du frère de Tcha qui s'appelle Pax dans votre livre et vous dites « Alors, il pensait sauver le monde et son échec l'a plongé dans la dépression. Il ne sait plus en quoi croire et se sent en décalage avec ce que vivre en société signifie. » Est-ce qu'à l'inverse, Tcha, lui, il est passé de croire à la révolution à croire aux médailles d'or, finalement ? Je me suis vraiment posé la question en vous lisant. Puis finalement, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très volontaire, très déterminé. Et sa détermination, après la révolution, il l'a mis dans le sport.
Ouais, vraiment.
Il peut vraiment faire ça, ça paraît dingue.
Non, mais il est vraiment comme ça. Il a une espèce de placidité, de détermination, de volonté. Et puis juste pour en revenir au personnage du frère, pour moi, c'est un personnage clé. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme dans un film ou comme dans un polar où on a le second rôle. Et en fait, le second rôle, on comprend que c'est le mec qui explique tout. Pour moi, le frère est presque le personnage clé de cette histoire. Et quand je l'écrivais, j'imaginais que c'était le personnage important.
On écoute un peu de musique et on vous retrouve tout de suite, Yvan Butel.
Thank you.
Voilà, ah bah, c'était brutal, c'était Alone Together des Saint-Étienne avec Sarah Cracknell, la chanteuse. C'est un extrait de l'album The Night. Voilà, c'était, on est toujours avec Yvon Butel, on parle de 200 et d'or, un récit paru aux éditions Globe. Est-ce que vous dites tout dans le livre ou est-ce qu'il y a des choses que vous savez que vous ne pouvez pas répéter parce que bah, voilà, il y a une histoire, il y a...
Ben c'est marrant comme question parce qu'effectivement, il y avait une première version du texte où il y avait quelques lignes sur une page, des lignes isolées sur une page, et où je disais la chose suivante, c'est qu'un jour, Cham a demandé quelque chose et puis... J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire et il n'a pas insisté. Voilà, il y avait cette page un peu mystérieuse.
Et vous avez demandé quoi? Là, vous suscitez notre curiosité.
Non mais, voilà, je ne dis pas ce qu'il m'a demandé.
Ah, bon, on ne saura pas. Ce n'est pas grave. Vous êtes scénariste, documentariste, vous avez été primé, si je ne me trompe pas, avec Paulin Ismar pour L'Europe et ses fantômes au Festival de Blois, c'est ça? Ou j'ai mal recopié?
Non, c'est ça, j'ai fait ce film-là, effectivement, avec
Paulin
Ismar.
C'est pour ça que vous avez été primé?
Non, c'était... Non.
Ah voilà, c'est ça que je n'ai pas trouvé. Et la question que je vais vous poser, c'était pourquoi un livre plutôt qu'un documentaire? C'est parce que les personnages ne veulent pas se laisser filmer, parce que...
C'est pas exactement ça, mais ça touche à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire de Tcha, c'est quand même une histoire de silence, la forme qui s'y prête le mieux, je crois, c'est quelque chose... Le silence en documentaire, il est compliqué, le silence. Poser des questions à quelqu'un qui répond pas, qui dit « j'ai pas envie de répondre », qui dit « va voir ailleurs », qui se tait... On est tout de suite dans le registre de l'aveu, ça peut être assez agressif, une caméra, etc. Donc il y a un moment où j'ai compris que pour explorer ce silence, pour tourner autour, pour aller voir ailleurs, pour etc., eh ben, c'était les mots. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi où la littérature peut dire que l'image ne pourrait pas dire?
Bien sûr.
C'est la question que je me suis posée dans une époque où on croit que dès qu'on voit, on a la vérité. Est-ce qu'on n'approche pas plus la vérité par les mots là que par peut-être une caméra qui filmerait?
Bien sûr, aussi. Il y a un truc comme ça aussi. Et puis tout ce qui est du registre de l'invention.
Alors, je ne me serais peut-être pas permis de vous poser cette question si vous ne l'aviez pas mis vous-même quelques indices dans le livre, à commencer par une citation au début du livre. Vous parlez de Michel Butel, j'imagine que vous avez un lien de parenté avec lui.
Ah ben oui, c'était mon père.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Parce que c'est quelqu'un qu'on a peut-être oublié malheureusement, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'histoire de la presse.
Alors, Michel Butel, il est donc décédé il y a quelques années. C'est quelqu'un qui avait inventé un journal qui s'appelait L'Autre Journal et qui n'a cessé de faire des journaux tout au long de sa vie. Donc, il avait aussi écrit des livres, mais il était donc vraiment à la croisée des chemins entre la littérature et la presse. Il n'a pas du tout, il n'est pas lié à l'histoire de Tcha, donc c'est quelque chose de complètement différent. Mais par contre, effectivement, il y a une phrase de lui en exergue du récit.
Et je puis, peux la lire, si vous ne la connaissez pas par cœur, je vous en voudrais pas, on ne vous en voudra pas.
Non, mais voilà, c'est...
Le mythe du phénix a disparu, on ne peut plus mourir et renaître, mais je crois que ceux qui ne sont pas morts plusieurs fois ne vivent pas encore.
Bah, cette phrase, je l'ai trouvée, donc après qu'il soit mort, j'ai trouvé cette phrase qu'il avait dite, en fait, dans un entretien, puisque ce n'est pas quelque chose qu'il a écrit, c'est quelque chose qu'il a dit. Et c'est une phrase sur le fait de renaître ou d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et elle me paraît correspondre parfaitement à la trajectoire de Tcha, qui a été annoncé pour mort à plusieurs reprises et qui n'en finit pas de revivre et de survivre.
On ne l'a pas dit, il a fait une crève de la faim de 400 jours. Il y a bien sûr dans ce livre de Science et d'Or, il y a le silence de Tcha, mais je me suis demandé si le silence le plus bruyant n'était pas celui du narrateur et peut-être de vous.
J'ai l'impression de dire beaucoup de choses. J'ai presque l'impression parfois d'être trop bavard et d'en dire trop. Je ne sais pas.
Vous avez travaillé ce silence ? Vous avez atténué votre présence dedans au fur et à mesure des relectures, des réécritures ?
Oui, je crois que la présence a été un peu atténuée. Effectivement, parfois, je me reproche un petit peu d'en dire encore trop et j'aimerais bien en dire le moins possible et aller vers une sorte de...
Je vous embête. Pour dire les choses clairement. Mais je vais continuer. Vous avez l'impression d'en dire encore trop ?
Non, mais d'en dire trop dans le sens où presque de donner presque trop d'informations sur le personnage et que parfois je me dis qu'on pourrait presque s'amuser à enlever une ligne sur deux encore et qu'on comprendrait encore son histoire et que ça serait encore plus beau. C'est-à-dire de faire l'exercice d'aller vers le moins comme une sorte d'assaise un peu asiatique.
C'est ce que vous avez fait en écrivant ? Vous avez retiré au fur et à mesure ?
Énormément de choses ont été enlevées. Il y a eu même des opérations un peu magiques où les éditeurs, ils ont tout d'un coup enlevé 30 pages et c'était comme une sorte de magie. Puisque je me disais, mince, qu'est-ce qui a disparu ? Et là, il est arrivé un truc génial où je ne retrouvais pas ce qui avait disparu, ça ne manquait pas au texte. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui n'est plus là, mais je ne sais pas quoi.
Il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est quand même qu'on découvre dans votre livre qu'une des villes où il pleut le plus en Europe se situe en Espagne, ce sur quoi je n'aurais pas parié a priori.
Vigo.
C'est anecdotique, mais ça se passe à Vigo en Espagne. Il y a cette scène au début du livre avec des hommes qui viennent justement autour de votre père dont on parlait à l'instant et qui répètent « on va faire le point, on va faire le point ». Et visiblement, cette phrase vous a marqué. Et je voulais juste vous demander, pour terminer, vous avez de la chance, il reste 2 minutes, donc si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez un peu tourner autour. Est-ce qu'écrire ce livre vous a aidé à faire le point sur quelque chose, vous ?
Ouais, je crois que c'est d'abord cette scène-là, effectivement, je ne sais pas si elle existait, mais si elle existait, elle se déroule il y a 50 ans. Il y a 50 ans, mon père inventait son premier journal. Et donc, c'était clairement, comme on en faisait à l'époque, comme ça, un peu des 68ards, un journal fait dans le salon d'une maison. Et faire le point, ça veut dire quoi ? Faire le point, c'est dissiper un certain flou, ce que j'ai appris avec l'histoire de Tcha, et peut-être que je comprends de la trajectoire de mon père aussi, c'est comment se tenir face à la question de l'engagement, de la violence politique. Et là-dessus, je trouve que Tcha, la manière dont il regarde son passé, dont il concilie son passé et son présent, il a trouvé une forme de juste distance et de juste regard sur ça.
Faire le point, c'est aussi ce que fait un documentariste ?
Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire faire le point, on essaye d'avoir des images pas trop floues.
Et vous avez, et le flou, c'est aussi intéressant, parfois. On n'en crée pas, des fois, un peu ?
Ouais,
c'est un peu ce que fait Tcha aussi. C'est qu'il dit, mais il laisse du flou. Il y a toujours un peu de flou qui reste à la fin du livre, et c'est ce qui le rend passionnant. J'avais noté qu'il y a des gens qui font des livres pour donner des réponses et être réconfortés. Dans le livre, il y a quelque chose peut-être d'inconfortable, mais de passionnant. C'est quand même bien plus intéressant d'être dans l'inconfort.
Oui, cette histoire...
Dans quelque chose où on n'a pas de réponse, quoi, finalement.
Effectivement, cette histoire, si elle m'accompagne depuis 20-25 ans, c'est que pour moi, elle est inépuisable et qu'elle est comme un puits sans fond et qu'on peut toujours y trouver des choses. On peut y trouver des multiples portes d'entrée. Et puis, par contre, on ne ferme jamais la porte derrière soi. C'est-à-dire que ça reste toujours ouvert.
Bon, alors merci beaucoup. Vous savez déjà sur quoi vous avez envie de réécrire après ça ? Vous savez pas ?
Je sais pas. Je laisse ça ouvert.
C'était pas quelque chose qui était prévu dans votre vie ?
Non, c'était absolument pas quelque chose qui était prévu dans ma vie.
C'est arrivé. Ah non, parce que quand même, c'est arrivé comment ? À quel moment vous avez commencé? C'est des notes que vous avez prises au fil de l'eau et puis c'est le cas.
Il y avait énormément de choses prises au fil de l'eau, comme ça. Il y avait des choses. Et le moment du déclenchement exactement du livre, c'est un truc qui reste pour moi complètement une interrogation. C'est comme quelque chose qui m'a dépassé. Et je ne peux pas vous dire un moment clé où je me suis dit, paf, allez, il faut y aller.
Ben merci beaucoup Yvan Butel d'être venu. Le livre s'appelle 200 et d'or, c'est aux éditions Globe. Vous avez compris qu'il était passionnant.
Merci.
Voilà, préparé, présenté par Christophe. La réalisation était assurée ce soir par Nina. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus. Et à très bientôt. Bonne soirée. Je crois que ce soir, il n'y a pas de matinale à 18h. Mais moi, je vous retrouve à 20h pour parler cuisine. Bonne soirée. Something.